Bonjour à toutes et à tous. Le moment keynésien d'Entendez-vous l'écho se poursuit avec un troisième et dernier épisode consacré à l'héritage de John Maynard Keynes, la pensée de ce dandy de l'économie, mort d'une crise cardiaque en 1946, a donné lieu à une multitude de courants, néo-keynésiens, post-keynésiens, école de la synthèse ou école de Cambridge, tous se réclament de la révolution théorique initiée par Keynes. Alors qui sont les descendants de l'économiste britannique et quelle bataille théorique et politique sa pensée continue-t-elle de susciter? Voilà les questions qui vont nous occuper jusqu'à 15h. Bienvenue à tous dans Entendez-vous l'écho. Nous allons parler de l'héritage de Keynes en compagnie de deux de ses descendants, Virginie Monvoisin, enseignante-chercheuse à l'école de management de Grenoble et co-directrice de cet ouvrage « L'économie post-keynésienne, histoire, théorie et politique » paru au Seuil, et Xavier Rago, président de l'Observatoire français des conjonctures économiques et directeur de recherche au CNRS. À 14h50, dans son journal de l'Écho, Xavier Martinet reviendra sur la grève de la faim, entamée il y a 3 semaines par l'eurodéputé Pierre Larouturou. Il réclame une vraie taxe sur les transactions financières. Bonjour Virginie Monvoisin et Xavier Rago.
Bonjour.
Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui depuis chez vous. Alors je vous propose pour commencer d'écouter l'économiste Bernard Maris nous raconter au micro de Mathieu Garrigou-Lagrange les derniers moments de la vie de Keynes.
Il a eu beaucoup de succès, il a eu son anoblissement, il a eu ce livre sur Newton qu'il rêvait d'écrire, qu'il a pu écrire, il a son mariage qui effectivement est une déception, non pas personnelle parce qu'il s'entendra toujours très bien avec Lydia Lopokova, mais parce que il n'a pas eu les enfants qu'il espérait. Il a vu son filleul mourir, ça a été un drame dans sa vie, il en a souffert énormément de voir ce jeune homme se faire tuer en Espagne. Oui, il a une santé très fragile, il est cardiaque, il est et bon, voilà, il va payer son excès de travail. Il aimait le champagne, il buvait beaucoup de champagne. Tous les soirs, c'était à Bloomsbury, c'était les bouteilles de champagne qui éclataient. Donc, on voit le milieu que c'était. Hein, c'était pas des pauvres. Vraiment. Et il dira que l'un de ses grands regrets, c'était de ne pas avoir bu assez de champagne.
Un extrait de l'émission Une vie, une œuvre consacrée à Keynes est diffusé le 4 février 2012 sur France Culture. Xavier Rago, qu'est-ce qu'on peut dire de la fin de vie de l'auteur de la théorie générale qui est donc mort en 1946 à l'âge de 63 ans?
Il avait une réputation considérable dans l'après-guerre, Keynes, pour sa contribution à l'évolution de la pensée économique elle-même, des concepts nouveaux, et puis son influence sur toutes les institutions de l'après-guerre. Il s'est impliqué dans la création du FMI, du système monétaire international, du rôle des banques centrales, du rôle du budget, du rôle des politiques qu'on appelle keynésiennes pour stabiliser le capitalisme. Il avait une aura intellectuelle incontestable et il a influencé pour 30, 40, même jusqu'à aujourd'hui, la structure de pensée de réflexion macroéconomique.
Et en même temps, il explique que son dernier regret, son plus grand regret, c'est de n'avoir pas bu assez de champagne. On voit bien ici, à Virginie Monvoisin, que Keynes est à la fois ce grand économiste et puis ce jouisseur, chose qui lui a été reprochée par certains.
Dans toute sa complexité, est à la fois un dandy, c'est le cercle de Bloomsbury, c'est aussi un homme, un haut fonctionnaire qui sort épuisé en fait du cycle de Bretton Woods et qui a échoué. Hein, le plan Keynes a échoué malheureusement et c'est une grande défaite pour lui. Et puis aussi effectivement ce théoricien qui ne verra pas vraiment ses politiques mises en œuvre. Hein, il faudra attendre un petit peu plus longtemps. Mais c'est vrai que son influence est considérable au sorti de la guerre. Et c'est toute sa complexité personnelle et intellectuelle qu'on voit là à la fin de sa vie.
Alors avant d'en venir à l'héritage proprement dit de Keynes, il faut comprendre que la parution de la théorie générale en 1936 provoque une révolution dans la pensée macroéconomique, une pensée qui va se diviser alors en deux grands courants. D'un côté les classiques, jusque-là dominants, et de l'autre les keynésiens. Deux écoles de pensée donc qui parviennent plutôt à collaborer dans les années 50 et 60, au lendemain de la mort de Keynes, Xavier Rago.
Oui, tout d'abord, là, il y a eu une réflexion nouvelle avec quasiment la constitution d'un nouveau champ intellectuel qu'on va appeler la macroéconomie, avec des grands concepts définis par Keynes sur la demande agrégée, l'épargne, l'investissement, des relations comptables, toute une façon de voir le fonctionnement des économies de marché sous un angle nouveau. Il a fallu un premier temps pour l'absorber dans la profession, et puis pour faire un dialogue avec d'autres courants, effectivement, les classiques, les néoclassiques, ou de certains microéconomistes, appelons-les comme ça, pour arriver à une synthèse qui a mis beaucoup de temps au niveau intellectuel, mais je dirais qu'au niveau de la pratique, disons que la pratique de la politique économique dans l'après-guerre, dans les 50-60, était influencée assez vite par la pensée macroéconomique keynésienne qui répondait au problème de la stabilité du capitalisme et de la gestion au jour le jour, je dirais, de la dynamique du capitalisme.
En règle générale, on distingue deux grands courants héritiers de Keynes, Virginie Monvoisin. D'un côté, le courant néo-keynésien, partisan justement d'une synthèse entre la pensée néoclassique et la pensée de Keynes. Et de l'autre, le courant post-keynésien qui cherche, lui, à approfondir le caractère révolutionnaire de l'œuvre de Keynes.
Oui, c'est cela, c'est-à-dire que alors les post-keynésiens, comme leur nom l'indique, hein, ils arrivent après Keynes, mais ils étaient là aussi au moment de Keynes. C'est un petit peu la complexité, c'est-à-dire que la première génération de post-keynésiens a connu Keynes. Hein, je pense à Minsky, à Robinson, Kaldor. Hein, bon, ces gens-là, en même temps Keynes, tout de suite. Après Keynes, effectivement, il a fallu du temps pour tirer tous les enseignements des intuitions de Keynes. Et puis, petit à petit, avec les années, le courant post-keynésien a constitué un programme de recherche et a approfondi les intuitions de Keynes au-delà de la théorie générale. Si vous retenez quelque chose des post-keynésiens, c'est effectivement regarder l'œuvre de Keynes d'une façon beaucoup plus large que simplement la théorie générale.
Alors on va entrer un petit peu dans le détail évidemment de ces deux grands courants, et je voudrais qu'on commence par le courant néo-keynésien qui cherche donc à rapprocher les idées néoclassiques et keynésiennes. L'une des premières formulations de cette synthèse est signée John Hicks, un économiste britannique qui publie un article important juste après la parution de la théorie générale. John Hicks étudie l'équilibre entre deux marchés, le marché financier et le marché de biens et services, et son modèle c'est une synthèse des travaux de Walras et de Keynes, Xavier Rago.
Oui, une synthèse assez précoce et une volonté dans un premier temps de formaliser un petit peu, je dirais, la pensée de Keynes en la simplifiant de manière drastique. Hein. Et Keynes était un peu ambigu par rapport à la contribution de Hicks. Il l'a soutenu, puis il a dit que c'était un peu trop quand même simple par rapport à la richesse de sa pensée. Mais la simplification de Hicks avec un modèle fort simple a été un premier essai de penser la théorie keynésienne comme un équilibre de marché avec des rationnements importants, c'est-à-dire avec un déficit de demande effective qui allait créer du chômage. Donc, est-ce que le modèle de Hicks a été fidèle ou pas à la pensée de Keynes ? C'est un débat incessant. Il modélise quelque chose de la pensée de Keynes, mais pas tout. Bien sûr, la pensée de Keynes est beaucoup, beaucoup plus riche à donner à d'autres axes de recherche. Et ce courant de Hicks a évolué de très longue date jusqu'à aujourd'hui, et c'est quasiment aujourd'hui, je dirais, dans sa version dynamique sur laquelle on reviendra aujourd'hui, je dirais, le courant dominant dans la macroéconomie, ce courant néo-keynésien.
Alors effectivement, on a John Hicks qui publie cet article en 1937, Mr. Keynes and the Classics, et crée ce modèle qu'on appelle le modèle ISLM, que les étudiants en économie connaissent bien, un modèle qui a été utilisé pour déterminer des politiques économiques, en particulier dans les années 50 et 60, Xavier Rago.
Ah, tout à fait, c'est un modèle Alors, ce modèle a un statut compliqué, c'est-à-dire il y a encore quelques années, quand j'enseignais la macroéconomie, on disait n'enseignez pas ISLM, c'est de la vieille macroéconomie, il y a des choses plus compliquées aujourd'hui, il y a des sortes de feux d'artifice mathématiques. Moi, j'ai toujours défendu le modèle ISLM qui, avec toutes les critiques que l'on peut faire, est un modèle fabuleux pour penser rapidement les déséquilibres du capitalisme. Et toute ma compréhension, je dirais, de la lecture de la crise de subprime, de la politique de l'austérité européenne et notre gestion du Covid, on peut le représenter avec le modèle ISLM. Donc le modèle ISLM, c'est un des deux, trois outils clés de la pensée économique qui permet de comprendre la situation économique et d'avoir des recommandations de politique économique qui sont au premier ordre dans la bonne direction. Après, il faut quantifier, il faut faire des modèles plus compliqués, mais les bonnes intuitions sont validés par le modèle ISLM aujourd'hui.
C'est un modèle qui montre que lorsque le plein emploi est atteint et qu'il y a un risque d'inflation, il faut réduire les déficits publics, alors qu'au contraire, lorsque le risque d'inflation s'éloigne, on relance pour recréer à nouveau des emplois en creusant les déficits, Xavier Rago ?
Oui, voilà, c'est à peu près ça. Le cœur du... Avec une petite nuance sur laquelle je vais insister en une seconde. Mais le cœur du modèle ISLM, c'est de dire qu'effectivement, deux choses. Un, le chômage est lié à un déficit de demande effective. C'est-à-dire qu'il n'y a pas assez de demande, il n'y a pas assez de consommation, et ça, ça crée du chômage. C'est le cœur. Et donc, il faut gérer l'activité économique avec la dette publique, avec le déficit public, pour soutenir la consommation, soutenir l'investissement aussi, les composants de la demande, pour relancer la machine économique. Ça, c'est le cœur du modèle ISLM. Il y a un petit manque dans le modèle ISLM, c'est que le niveau de dette publique, le statut de dette publique, est pas directement modélisé. C'est-à-dire que, et ça, un petit peu.
Excusez-moi, Xavier Rago, je vous demanderai juste de faire attention à votre kit main libre. Je pense qu'on l'entend assez fort dans le micro, voilà, simplement.
D'accord, excusez-moi. Donc, le point de nuance, c'est que dans le modèle ISLM, le stock de dette, le volume de dette n'est pas très bien représenté parce que ce n'est pas le sujet de Keynes. Aujourd'hui, on est dans un monde où, en plus de ce problème de déficit de demande agrégée qu'on fait face au niveau international, et on pourrait insister là-dessus, on a vraiment un problème, on est dans un problème keynésien au niveau international. Le second problème, c'est que les dettes publiques sont aujourd'hui n'ont jamais été aussi élevées. Elles ont déplacé le niveau de la Seconde Guerre mondiale, le niveau des dettes publiques dans la crise du Covid. Donc cette seconde dimension est à ajouter à la réflexion de Keynes pour penser à la dynamique du capitalisme actuel.
Virginie Monvoisin, quel est votre regard sur ce modèle ISLM et sur son efficacité ? Est-ce que pour vous, il trahit la pensée de Keynes ou il permet peut-être de la rendre plus compréhensible ?
Alors c'est vrai qu'on a beaucoup enseigné ISLM et ça pose quelques questions. Ça pose des questions sur le statut de l'épargne et sur le statut de la relation à l'endettement. Alors bon, effectivement, c'est une bonne porte d'entrée, mais après, il faut peut-être aller un petit peu plus loin. Voilà.
Alors si le courant de l'école de la synthèse a été dominant jusqu'aux années 1970, il est contesté à la fin des années 60 par les théoriciens du déséquilibre. Parmi eux, le français Edmond Malinvaux. En 1975, il participe à la commission chargée de définir l'orientation du 7e plan quinquennal. On l'écoute et on en parle après.
Notre commission a étudié un certain nombre de moyens qu'elle propose à l'attention du Conseil économique et du gouvernement pour aboutir à la définition d'un 7e plan qui soit de nature à garantir la croissance économique.
Peut-on le définir comme un plan de combat, ce 7e plan ?
L'idée n'est pas mauvaise. Il faut lutter. Il faut lutter pour développer nos exportations. Il faut lutter pour arrêter la hausse des prix chez nous. Il faut lutter aussi pour réorienter la croissance économique, pour assurer une meilleure qualité de la vie, pour résorber les inégalités, etc. Nous avions à nous occuper en particulier des questions touchant l'emploi, avec la recherche d'un meilleur emploi, donc la recherche de conditions pour l'activité des hommes et leur travail qui répondent mieux aux objectifs sociaux. Et nous souhaiterions, quant à nous, que effectivement le plan retienne un certain nombre d'objectifs de cette nature qui nous paraissent à l'heure actuelle, au stade actuel du développement français, devoir être prioritaires.
Xavier Rago, quelle est sur le chômage la position défendue par Edmond Malinvaux et les théoriciens du déséquilibre qui sont eux aussi des néo-keynésiens comme l'école de la synthèse mais qui vont apporter de nouvelles réflexions?
Tout à fait. Alors, sur le chômage, il y a des éléments nouveaux qui sont un petit peu dans le discours de Malinvaux aussi. Dans le discours, il a introduit deux éléments qui sont la compétitivité, c'est-à-dire les exportations, et le fait qu'il fallait lutter contre l'inflation parce que l'inflation était élevée. Ça, c'est deux éléments qui sont pas strictement, je dirais, dans la réflexion de Keynes et qui ont abouti d'autres économistes, dont Edmond Malinvaux, qui avait un rôle aussi opérationnel, mais des gens comme Jean-Pascal Benassi, à développer une théorie alternative du déséquilibre pour essayer d'introduire ces autres marchés dans l'analyse, le marché à l'exportation et aussi le fait que quand on stimule la demande effective, on peut créer trop d'inflation, qui était le problème des années 60 et 70, cet excès d'inflation. Et c'est cet excès d'inflation qui aboutit à ces réflexions alternatives pour penser le fait que finalement, si on n'arrive pas à faire diminuer le chômage par une demande effective et que cette demande effective se traduit par l'inflation, ben peut-être il faut réfléchir à d'autres réformes sur le marché du travail pour accélérer la mobilité des travailleurs, etc., etc. Donc c'est le début d'une réflexion sur la réforme du marché du travail pour pouvoir stimuler la demande effective en créant de l'emploi et non pas de l'inflation.
Donc ce que disent finalement ces théoriciens du déséquilibre, c'est que le chômage peut ne pas provenir d'une demande globale insuffisante, mais peut-être de salaires réels trop élevés.
Voilà, c'est dans ces dimensions de synthèse, il y a, alors, pour le courant néoclassique de base, je dirais, pour revenir aux fondamentaux, s'il y a du chômage, c'est que les salaires sont trop élevés, parce que, voilà, on pense que c'est un marché isolé de tout le reste, et donc, il suffit de faire baisser les salaires pour créer, qu'il y ait plus de demandes d'emploi par les entreprises, et donc ça crée du chômage. Cette vision-là, c'est la vision assez standard des chefs d'entreprise, des acteurs qui n'ont pas la pensée macroéconomique de Keynes. Ce que nous disait Keynes, c'est que si on baisse les salaires, les gens vont moins consommer, il y aura moins de demandes et ça peut créer du chômage. C'est cette boucle-là nouvelle qu'il a mise dans la pensée macroéconomique. Mais il a mise avec tellement de puissance qu'il y a une part de vérité parfois dans certains cas, du fait que les salaires peuvent être élevés et créer des problèmes dans des secteurs, dans des entreprises et autres, qu'il a fallu dans ces années 60-70 changer, faire évoluer la théorie pour retrouver parfois certains éléments de vérité sur l'effet quand même parfois du salaire sur l'emploi dans l'analyse globale. Et cette synthèse, donc on le voit, c'est certains éléments microéconomiques tout en gardant le cœur de la contribution keynésienne.
Alors venons-en à l'autre courant, celui des post-keynésiens, qui est un courant qui émerge d'abord parmi les économistes de l'université de Cambridge, autour notamment de la figure de Joan Robinson. Est-ce que vous pouvez nous la présenter, Virginie Monvoisin?
Alors, bon, Joan Robinson est l'une des rares femmes économiste, donc ne serait-ce que pour cela.
C'est important de le souligner.
C'est important parce que nous ne sommes pas nombreuses et au moins dans l'histoire de la pensée économique, il y a cette femme tout à fait extraordinaire. Tout à fait extraordinaire pour plusieurs raisons, parce que déjà longévité de sa carrière universitaire et puis aussi l'importance, le volume de tout ce qu'elle a pu écrire. Elle a écrit énormément. Et alors elle a balayé un petit peu le champ de l'histoire de la pensée, c'est-à-dire qu'elle a commencé plutôt classique et elle a fini plutôt marxiste, on va dire ça comme ça. Mais elle s'est posée des questions extrêmement importantes pour le courant post-keynésien comme pour les hétérodoxes en général, c'est-à-dire quid des conflits de répartition, quid du rôle des banques dans un monde moderne où tout le monde a un compte en banque. Qu'est-ce qui va se passer? Comment va circuler la monnaie? Donc son rôle va être fondamental dans la constitution du courant post-keynésien parce qu'elle va apporter une réflexion à la fois sur des aspects financiers et sur tout ce qui est accumulation du capital.
Est-ce que ce qui caractérise ce courant post-keynésien, c'est que ces théoriciens s'appuient sur l'œuvre entière de Keynes et pas seulement sur la théorie générale, comme le font peut-être les néo-keynésiens, Virginie Monvoisin?
C'est cela, c'est-à-dire que les post-keynésiens ont un rapport à l'œuvre de Keynes complexe, c'est-à-dire que à la fois les post-keynésiens vont s'attacher aux intuitions fondamentales. Ils sont vraiment très attachés à l'incertitude radicale. D'ailleurs, en ce moment, on la vit, hein. On la vit à tout moment, c'est-à-dire qu'on n'a aucune idée de ce qui va se passer. Et ça, les post-keynésiens, ils sont très attachés. Ils sont aussi très attachés au concept de demande effective, au temps historique. Et tout cela, on va le retrouver dans l'ensemble de l'œuvre de Keynes. Alors, on va dire au moins le Putties on Money de 1930, jusqu'aux articles sur le motif de finance dans les 37, 38, 39, et aussi le plan Keynes de Bretton Woods qui nous donne des indications sur la réforme du système monétaire international. Et à la fois, donc, il y a cet attachement aux intuitions de Keynes, mais il y a aussi une critique. Hein, il y a aussi une critique. Rechercher la cohérence chez Keynes, c'est pas toujours simple. Mais en tout cas, il y a une approche critique des intuitions de Keynes, et les post-keynésiens ont, se nourrissant des contemporains de Keynes et de ceux qui vont lui succéder, vont essayer de construire un corpus théorique qui peut développer des résultats et des politiques économiques intéressantes.
Alors il y a Joan Robinson dont on a parlé, mais il y a aussi un autre grand représentant de cette première génération de post-keynésiens autour de l'université de Cambridge, c'est Ayman Minsky, pour qui les crises sont inhérentes au système capitaliste lui-même, d'où la nécessité d'une régulation par l'État, et ça c'est un point qui rassemble les économistes post-keynésiens, Xavier Rago.
Oui, et néo-keynésiens, tout à fait. Je dirais que la différence, c'est juste ce qui a été dit sur la dimension post-keynésienne, ce qui est d'appréhender Keynes dans différentes formes de globalité en gardant certaines intuitions fondamentales. Je dirais que le courant néo-keynésien, c'est vrai qu'il a un peu saucissonné, je dirais, la pensée de Keynes. Le gain, alors il y a un coût qui est de perdre des visions globales, certes, il y a un petit gain relatif qui a été un souci quantitatif un peu plus important. Par exemple, le débat quand je relance l'investissement public, qu'est-ce que ça va sur la consommation et sur le chômage? Est-ce que quantitativement le multiplicateur keynésien c'est combien? Et en fait, tout ça, c'est un petit bout de la pensée keynésienne. C'est juste, est-ce qu'il faut relancer l'investissement public et combien ça fait? Ça a donné lieu à des études quantitatives assez substantielles, qui sont aujourd'hui, je dirais, moi, portés par le FMI après le passage d'Olivier Blanchard. Je dirais que c'est le courant institutionnel maintenant reconnaît le rôle de l'investissement public conformément aux intuitions keynésiennes avec des outils, je dirais, néo-keynésiens quantitatifs. Donc, c'est l'arbitrage global dans la courant de la pensée. Garder des intuitions globales et le courant post-keynésien, faut lui reconnaître. C'est un courant qui a pensé l'instabilité de la finance et des crises financières d'une manière plus profonde à ce jour que le courant néo-keynésien. Donc ça, c'est un gain indubitable. Le gain du courant néo-keynésien, c'est d'être plus quantitatif pour dire, voilà, est-ce qu'il faut que j'augmente la création monétaire ou pas? Et voilà, t'es un peu plus opérationnel pour guider au jour le jour, je dirais, la politique économique.
Ce qu'on peut aussi reconnaître au poste keynésien, c'est leur apport sur la conception de la firme. Ils développent une autre conception de la firme, Virginie Monvoisin.
Alors effectivement, je rejoins tout à fait ce que vient de dire Xavier Rago sur Olivier Blanchard, hein, qui a fait beaucoup pour réintroduire le multiplicateur budgétaire et sur les mesures quantitatives. Et ça, c'est extrêmement important. Et effectivement, chez les post-keynésiens, il y a ce souci quasiment épistémologique, hein, de toujours répondre à ce que l'on observe dans l'économie. On est moins dans des modèles un petit peu rigides comme ça. Alors ça pose plus de problèmes, hein, faut s'adapter, mais notamment avec la finance, c'est ce qu'on a dit sur Minsky, mais aussi effectivement pour la firme. Sur la firme, alors là aussi, ça va remonter à John Robinson, ça va remonter, on va remonter un petit peu comme ça sur les conflits de répartition au sein de l'entreprise. Il y a aussi Kalinsky, dont on n'a pas encore parlé, hein, qui est aussi très important pour les postes keynésiens. Et on va essayer de comprendre comment fonctionne la firme, comment les conflits de répartition au sein de la firme, mais aussi dans l'économie, ont des conséquences.
Donc le pouvoir entre patrons et salariés, notamment la répartition de ce pouvoir.
Complètement. Alors si je peux reboucler la boucle, actuellement, on voit avec la financiarisation de l'économie, on peut observer que le pouvoir des salariés diminue, hein, la part des salaires est moins forte dans l'entité, mais aussi le pouvoir des managers au sein de l'entreprise qui sont financiarisés, donc le pouvoir va un peu plus vers l'actionnariat et on voit que les stratégies d'investissement vont être impactées par ce fonctionnement-là. Et ça, c'est typiquement kaleskien, hein, de pouvoir mêler à la fois ces questions de financiarisation, cette question de conflit de répartition, la part des salaires, la part du profit, la part des dividendes. Donc, ça nous donne une image à la fois très complexe, mais aussi qui colle complètement à la réalité que nous vivons en ce moment.
Un autre apport important des économistes post-keynésiens, Xavier Rago, c'est cette idée qu'ils ont développée d'une rationalité limitée des agents économiques. Aujourd'hui, il y a un consensus autour de cette idée.
Oui, alors cette idée de rationalité est extrêmement complexe et elle est assez fascinante dans la pensée de Keynes. C'est que en fait, Keynes est un penseur de différentes formes de rationalité. Il y a parfois la rationalité des esprits animaux, c'est-à-dire la volonté d'investir ou pas du chef d'entreprise, parfois un peu caractériel. Hein. On voit la figure du capitaine d'industrie ou déprimé ou euphorique. Et puis il y a d'autres formes de rationalité. Un peu moins limité, un peu plus complexe et sophistiqué, notamment en finance, où il raconte l'histoire des traders qui sont non pas intéressés par la valeur des objets, mais ce que les autres pensent de la valeur et ce que les autres pensent que les autres pensent. Et donc, une sorte de mimétisme rationnel qui apparaît dans un fameux chapitre, qui est le chapitre 12, hein, sur lequel André Orléans a écrit des choses très profondes. Donc, Keynes est un penseur de 10 différentes formes d'hétérogénéité, des rationalités des individus, suivant le lieu économique où ils se placent. Ça a été critiqué dans un premier temps, je dirais pas, une sorte de révolution qu'on appelle la révolution des anticipations rationnelles, qui me disait oui, les gens sont très rationnels, il faut un modèle de rationalité un peu maximale des individus. Et aujourd'hui, dans le renouveau néo-keynésien, on revient à des formes très contextuelles de rationalité.
Grâce à l'économie comportementale aussi, Xavier Rago.
Exactement. L'économie comportementale, qui a donné quelques prix Nobel entre guillemets en économie, qui se base sur des expériences, sur la psychologie comportementale, arrive à mettre dans notre compréhension de l'économie des homo economicus ou des homo sociologicus ou des êtres un peu plus normaux, je dirais, que la fiction de l'individu rationnel ultra maximisateur qui a été utilisée dans les années 80-90 en économie.
Alors ces divisions entre néo-keynésiens et post-keynésiens vont se poursuivre et prendre de nouvelles formes au gré des mutations de l'économie à partir des années 70. On en parle dans un instant.
Ça ne va pas, la crise par-ci, la crise par-là, on se plaint jour et nuit, on se lamente, on s'ennuie. La crise est la cause de tout, même Crésus est sans le sou, il gagne du 100%, mais se fait du mauvais sang. Il existe un moyen pourtant d'être toujours content, c'est de croire que tout est mieux, tout est délicieux, tout merveilleux, et de chanter à Dieu. La crise est finie, la crise est finie, nous vivons dans l'âge d'or. La crise est finie, la crise est finie, oh, crions le bien fort. On voit les jeunes et les vieux jusqu'au pépé chanter joyeux, tra-la-la-la-la, et répéter encore. La crise est finie, la crise est finie, nous nageons dans le bonheur. Autrefois, on était heureux comme des rois, la vie était pour rien, et l'on vivait si bien. Le pur bretin comme le rentier se baladait toujours à pied l'été pour prendre le frais dans le train se fait à peu frais. Maintenant les petits comme les gros ne roulent qu'en auto dans les cercles les casinos leur coule à flot rien n'est trop beau car disons le trop haut. La crise est finie, la crise est finie, nous vivons dans l'âge d'or. La crise est finie, la crise est finie, oh, crions le bien fort. On voit les jeunes et les vieux jusqu'au pépé chanter joyeux, tralalala, et répéter encore. La crise est finie, la crise est finie, nous nageons dans le bonheur.
La crise est finie, chantait Albert Préjean en 1934. Si seulement pourrions-nous rajouter, nous poursuivons notre voyage dans le labyrinthe des courants de pensée qui se réclament de Keynes. Nous sommes toujours en compagnie de Virginie Monvoisin et de Xavier Rago avec nous à distance. Alors dans les années 90, dans le sillage des néo-keynésiens, une nouvelle génération d'économistes essaye aussi de faire la synthèse entre la pensée classique et la pensée keynésienne. Ce courant, c'est la nouvelle économie keynésienne incarnée entre autres par Paul Romer. En 2018, il a reçu le prix Nobel d'économie pour ses travaux sur la croissance endogène. De quoi s'agit-il, Xavier Rago?
Alors, il s'agit, cette histoire de la nouvelle synthèse des années 90 est particulièrement intéressante, parce qu'il faut la comprendre comme une réaction aux années 80. Les années 80, il y a un tournant qu'on appelle les anticipations rationnelles, une sorte de révolution monétariste, un peu conservatrice, porté au niveau institutionnel, bien sûr, les figures, c'est Reagan, Thatcher, et qui ont conduit à une politique assez hostile envers l'université de Cambridge dont on vient de parler, et qui était un courant très, voilà, il faut des banques centrales indépendantes, les marchés ça fonctionne, l'État minimal assure la croissance, c'était un courant très néoclassique. Et il a abouti à des théories économiques qui étaient censées justifier cette vision du monde d'un marché autorégulateur parfait et d'un État minimal. Ça a été une grande faillite intellectuelle des années 80 de notre profession. Et donc, à partir de ce courant des anticipations rationnelles, il y a une jeune génération aux États-Unis qui a essayé de faire une nouvelle synthèse avec des gens comme... Alors, Blanchard en fait partie, Olivier Blanchard, l'économiste français, en fait partie, donc on l'a cité tout à l'heure. Il y a Romer aussi, David Romer. Il y a quelques-uns, Mankiw, voilà, une génération d'économistes qui auront peut-être les prix Nobel dans les années qui viennent pour cette nouvelle synthèse, qui est aussi très imparfaite. Hein. Certains peuvent dire qu'elle est trop près du courant néoclassique aussi. Toute synthèse est assez ambiguë. Voilà, mais donc cette nouvelle synthèse a abouti aux outils les plus modernes utilisés par les banques centrales, parfois les gouvernements, par la Commission européenne, pour essayer d'analyser l'effet des plans de relance, par exemple. Mmh. Tous les outils aujourd'hui quantitatifs sont plutôt le fruit de cette nouvelle synthèse des années 90.
Et sur quel point cette nouvelle économie keynésienne s'éloigne-t-elle de la pensée originale de Keynes, selon les post-keynésiens, Virginie Monvoisin?
Alors effectivement, ça va nous poser le problème de l'articulation micro-macro. Alors c'est à la fois un piège pour tout étudiant et puis aussi c'est une question extrêmement épistémologique. Mais malgré tout, Keynes avait une approche très holiste hein, des choses, hein, c'est-à-dire prenez les choses dans leur globalité. C'est pas pour rien que c'est le père de la macroéconomie. Or là. Dès qu'on commence à aller sur la rationalité, sur l'individualisme méthodologique, nécessairement va se poser la question de la macroéconomie. Et donc là, c'est ce que fait la nouvelle école keynésienne, hein, c'est les fondements micro de la macro. Les post-keynésiens vont préférer faire l'inverse, c'est-à-dire, certes, le courant post-keynésien, nous faisons de la microéconomie, mais on va s'intéresser aux fondements macro de la micro. Grâce notamment aux conventions, aux institutions et à certains comportements mimétiques. Donc le point d'achoppement, il est là. c'est l'individualisme méthodologique et c'est aussi l'approche par le marché, une fois encore.
Et aussi le fait que Keynes reconnaissait l'existence d'une asymétrie fondamentale entre les salariés et les entrepreneurs, ce qui n'est pas le cas du côté de la nouvelle économie keynésienne. On a cité Olivier Blanchard, Paul Romer, il y a aussi Joseph Stiglitz qui va développer toute une théorie sur les marchés avec asymétrie d'information. Et ça, ça va prolonger tout de même la réflexion de Keynes sur l'incertitude, Xavier Rago.
Oui, c'est juste, vous avez raison, dans la dimension la plus macroéconomique, il y a ce qu'on a cité, Blanchard, etc. Au niveau de la synthèse microéconomique, en partant du courant néoclassique pour aller vers des problèmes de pouvoir, de domination, il y a effectivement des contributions, comme Joe Stiglitz, Akerlof, qui ont contribué à partir du courant néoclassique un peu bête, je dirais, excusez-moi de le qualifier comme tel, de le rendre un peu plus intelligent. Alors, est-ce qu'il est suffisamment intelligent par rapport aux exigences du courant post-keynésien? C'est un vrai débat légitime, mais c'est très dur de trancher ce débat-là. Moi, je le trancherais, je dirais, en termes d'implications concrètes. Et en cela, je pense que aussi une des leçons keynésiennes, je dirais, c'est un certain pragmatisme pour gérer les situations macroéconomiques. Le déficit de demande effective, c'est opérationnel. On l'a oublié dans l'austérité européenne et on a fait des grosses bêtises en Europe. Voilà.
Et vous parlez de la période d'austérité entre 2013 et 2015, parce qu'effectivement, après la crise de 2008, dans un premier temps, il y a eu en quelque sorte un retour en force du courant post-keynésien et une volonté de réinjecter de l'argent dans l'économie.
Tout à fait, tout à fait. Alors, petite séquence, parce que on est dans la période Covid, mais revenons à ce moment qui est la crise des subprimes. Crise des subprimes, instabilité financière, massive, une des plus grandes bulles du capitalisme immobilier. Moment keynésien de relance, post-keynésien et néo-keynésien, je dirais, de 2009 à 2011, assez efficace en Europe. Et très très tôt, il y a un courant anti-keynésien assez complexe, porté par des économistes néoclassiques, par des institutions, qui aboutit à cette période d'austérité, qui était un des énormes échecs macroéconomiques, et je pourrais y revenir, qui était un peu un scandale intellectuel pour tout macroéconomiste, de 2013 à 2015. Et après, du fait de cet échec qui était tellement évident, on a failli faire exploser la zone euro avec ces bêtises, on est revenu à une des politiques beaucoup plus raisonnables keynésiennes, qui nous permettent aujourd'hui, pendant la crise des subprimes, la crise du Covid aujourd'hui, de laisser la dette publique augmenter et d'avoir une politique de la Banque centrale très très interventionniste. Et heureusement pour nous qu'on a appris des bêtises anti-keynésiennes de l'austérité de 2013 à 2015.
Mais alors est-ce que ce moment de 2008 n'a pas en quelque sorte durci les clivages entre les différentes écoles de pensée, Virginie Monvoisin?
C'est extrêmement délicat parce que on a parlé de moment keynésien ou de moment minskien aussi, hein, parce qu'effectivement...
En référence à Minsky.
Voilà, avait expliqué comment on allait vers une fragilisation financière et comment on pouvait basculer d'une situation apparemment paradoxe de la tranquillité où tout va bien et puis on bascule dans une crise profonde et 2008 est là pour vraiment illustrer la théorie Minsky. Et c'est vrai qu'on a mis en place des politiques à des moments keynésiens. Le problème, c'est est-ce qu'on doit n'avoir que des moments keynésiens et faire du Keynes au moment où ça va mal et puis au moment où ça va mieux, retourner vers des politiques d'austérité. C'est un petit peu le tropisme européen. Là, on le voit, on nous parle de politique de relance et tout. Là, on peut en discuter.
Hein. Alors justement, est-ce qu'on vit un moment keynésien en ce moment? C'est l'avis d'Esther Duflo qui était invitée sur France Inter le 31 mars dernier. Je vous propose de l'écouter.
On a une grosse crise de demande comme celle qu'on a aujourd'hui. Il faut injecter des ressources dans l'économie en empruntant, et il n'y a que les gouvernements qui peuvent le faire, et de stimuler l'économie autant que possible. C'est ce que font les États-Unis avec les 2 trillions dont on a parlé. C'est ce qui est fait en ce moment en Europe, comme on le discutait. Donc c'est vraiment le moment keynésien par excellence, qui va aussi avec, si possible, une coordination des politiques au niveau des différents États pour qu'ils le fassent ensemble, qui est aussi quelque chose sur lequel Keynes insistait.
Xavier Rago, sommes-nous tous devenus keynésiens, pour reprendre l'expression de Nixon en 1971?
Alors, il y a deux lectures. Je voudrais exprimer à votre micro une lecture optimiste en disant oui. Je veux croire que maintenant on a tous appris la politique d'austérité et que, au-delà du moment keynésien actuel, on va pas revenir aux politiques d'austérité, c'est-à-dire hausse d'impôts très tôt. C'est un peu un pari et c'est pas gagné. Il faut être vigilant, il faut définir des institutions, du débat politique pour qu'on voit tous les enjeux et notamment les enjeux de redistribution des inégalités, des politiques d'austérité. Mais parce que certains ont intérêt à l'austérité, ne l'oublions pas.
Et on a quand même des exemples de politiques publiques, effectivement, des projets du côté des États-Unis de Joe Biden qui veut mettre l'accent sur les dépenses d'infrastructures, les investissements verts, etc. Aussi du côté du Royaume-Uni, on a le sentiment qu'une vraie politique keynésienne est mise en place.
Alors oui, tout à fait, et c'est assez intéressant cette histoire. Trump a un peu commencé, d'une manière très brouillonne et confuse, avec des plans d'infrastructure. Boris Johnson aussi, hein, il définit un politique assez keynésienne d'infrastructure. Et donc il y a eu des courants, je dirais, national keynésien, une sorte de populisme keynésien, du keynésianisme dans un seul pays, pour reprendre d'autres références historiques, qui étaient un petit peu keynésien pour la relance de la demande effective dans le pays, avec l'argent public, avec un certain interventionnisme, mais pas keynésien dans la mesure où il n'y avait pas de coordination internationale, il n'y avait pas un souci des équilibres internationaux qu'a rappelé Esther Duflo, et dont vous avez parlé, qui était le souci de Keynes, qui l'a conduit à la crise cardiaque de son investissement dans Bretton Woods. Donc cette dimension internationale manque au populisme keynésien des années Trump et Boris Johnson. On peut espérer que Biden va faire les deux. Il va avoir des plans d'infrastructure pour aider l'économie américaine, réduire les inégalités, mais garder cette dimension de coopération internationale pour que tout le monde puisse profiter d'une politique de relance mondiale.
Donc votre première lecture est optimiste, mais une seconde lecture le serait moins, Xavier Rago ?
Oui, parce que il y a quelques nuages à l'horizon quand même. C'est vrai que la dette publique est élevée, elle est très élevée. Je vous l'ai rappelé, hein, la dette publique est élevée. Je ne veux pas le minorer, mais ça doit pas être notre obsession pour les 20 prochaines années. Notre obsession, ça doit être de stabiliser l'environnement et réduire le chômage. Et il y a certains pays et certains courants en Europe qui mettent sur le débat de la scène, certaines nécessités d'austérité pour réduire la dette publique, alors que c'est complètement prématuré. Donc, le débat ne fait que commencer. Voilà.
Et le problème, c'est peut-être que tout dépend de ce qu'on met derrière cet adjectif keynésien quand on essaye de répondre à la question « sommes-nous tous keynésiens ?»
Tout à fait. Hein. Je rejoins Xavier Rago là-dessus. Hein. C'est-à-dire que j'ai envie d'être optimiste parce que on voit bien la nécessité d'eux. On n'imagine pas des politiques d'austérité à court ou moyen terme, et pourtant, y a la petite musique qui commence à monter autour de ah oui mais la dette, mon Dieu, que va-t-il nous arriver. Donc là-dessus, je rejoins complètement, et c'est là-dessus que se rejoignent les post-keynésiens et la NEC, hein, c'est sur les politiques économiques.
La NEC, la nouvelle économie keynésienne.
Pardon, oui. Mais sur le terme même moment keynésien, je suis même pas sûre. C'est-à-dire là, faudrait réfléchir deux secondes et demie. C'est vrai qu'on a un problème de demande, mais aussi on a un problème d'offre. À partir du moment où on décide, d'un point de vue administratif, de fermer des commerces, de fermer des banquiers de l'économie, c'est aussi un problème d'offre. Donc, je ne sais pas si c'est un moment keynésien. C'est sans doute un moment pour penser les politiques keynésiennes. Je crois qu'on n'en est pas encore là non plus. C'est-à-dire que pour l'instant, on en est plutôt dans des politiques de sauvetage, des politiques de soutien. On n'en est pas à la relance, on en est loin. Il va falloir mesurer les conséquences du confinement, du reconfinement. Est-ce qu'il va y en avoir d'autres? Quel impact ça va avoir?
Beaucoup d'incertitudes encore, effectivement. Et alors, faut-il se méfier d'un keynésianisme de circonstance de certains économistes orthodoxes? Vous disiez tout à l'heure, Xavier Rago, que certains ont intérêt à l'austérité. Qui a intérêt à l'austérité aujourd'hui?
Alors, c'est assez simple, il faut revenir à ce qu'a dit Virginie Monvoisin, qui est tout à fait pertinent sur le problème d'offre et le plan de soutien aujourd'hui plutôt que plan de relance. C'est une caractérisation très juste de la crise dans laquelle on est. Mais assez rapidement, pour répondre à votre question, qui a intérêt à l'austérité? Que fait l'austérité? L'austérité, ça réduit les dettes publiques. Ça permet au marché financier de reprendre un peu d'ascendant sur les finances publiques avec une augmentation des taux d'intérêt. Et donc, logiquement, Et c'est la grande tension du capitalisme, une des grandes tensions. Il y a une opposition entre les épargnants et les personnes endettées. Et donc ceux qui ont intérêt plutôt à l'austérité, c'est plutôt les épargnants qui ont intérêt à ce que les taux d'intérêt augmentent et ce que les salaires baissent. Et à l'inverse, bien sûr, il y a les salariés et les personnes endettées, plutôt les jeunes. Il y a une dimension intergénérationnelle aussi de ces oppositions qui ont plutôt intérêt à ce que les salaires augmentent, bien sûr, et que les taux d'intérêt baissent. Donc autour de ces deux grandes variables du capitalisme, que sont le taux d'intérêt et le salaire, il y a évidemment des conflits d'économie politique au sein des pays et entre les pays européens. Il y a des pays qui sont beaucoup plus épargnants que d'autres, notamment l'Allemagne, c'est le pays qui épargne le plus au niveau mondial. Et il y a des pays qui s'endettent énormément au niveau international, qui est la France. Donc vous voyez que là, on perçoit déjà les tensions autour de l'austérité et des taux d'intérêt dans les années qui viennent.
Des tensions qui vont animer encore un certain nombre de débats, en effet. Je vous propose d'écouter une dernière voix, celle de l'économiste américain Paul Davidson, figure du courant post-keynésien. Il revenait en 2015 sur l'héritage intellectuel de Keynes.
Dans la théorie générale, Keynes explique que les économistes classiques sont comme des géomètres euclidiens dans un monde non euclidien. Lorsqu'il constate que des droites parallèles se croisent, il les réprimande. Aussi, Keynes avançait-il que l'axiome des parallèles devait être rejeté et la géométrie non euclidienne encouragée. C'est ce qui est nécessaire pour l'étude de l'économie aujourd'hui, expliquait-il en 1936. Tout n'est pas remplaçable, selon lui. C'est particulièrement important lorsque vous pensez aux actifs financiers et aux actifs de l'économie réelle. Pour lui, ça n'est pas la même chose. Et puis, il a ajouté une chose appelée l'incertitude. Il ne savait pas qu'il s'agissait d'un axiome que les statisticiens appelleraient l'axiome ergotique, qui dit que le futur ne peut être prédit avec les probabilités du passé. Lorsque vous avancez ces axiomes, vous vous retrouvez avec une nouvelle vision du fonctionnement d'une économie capitaliste. C'est ce que faisait Keynes. Il mettait au point une nouvelle théorie macroéconomique et monétaire. Macroeconomics about monetary
theory called a treatise on money. Une nouvelle théorie macroéconomique et monétaire qui peut nous aider à faire face aux grands enjeux contemporains comme la transition écologique et le plein emploi aujourd'hui, Virginie Monvoisin.
Oui, effectivement, pour reprendre ce que vient de dire Davidson, c'est l'économie monétaire de production que Keynes a définie en 1936. Nous permet tout à la fois de comprendre les enjeux de la financiarisation, les enjeux des excès de la finance, mais aussi les excès du capitalisme, les inégalités. Et concernant les questionnements autour du développement durable, autour de l'environnement, il y a énormément de travaux dans l'économie standard autour du prix, comment, quelle valeur donner à la nature, ce qui est extrêmement compliqué, alors que l'économie keynésienne et post-keynésienne va proposer une voie alternative. Est-ce qu'il est nécessaire de passer par le marché pour comprendre la nature? Effectivement, c'est peut-être pas la meilleure des façons. Comment comprendre l'accumulation du capitalisme? Donc c'est des pistes sur lesquelles les keynésiens, les post-keynésiens travaillent de façon importante. Georges Kouroghen, le pape de la décroissance, a été considéré pendant un temps comme un post-keynésien. La pomme ne tombe pas loin de l'arbre. Ces questions-là méritent des travaux. Et il y a beaucoup de jeunes post-keynésiens qui développent des modèles et essayent d'avancer sur ces questions-là.
Ces idées progressent et on l'a vu notamment sur le plan politique, puisqu'il y a des mises en œuvre un peu partout, enfin dans un certain nombre de pays. Mais alors, est-ce que sur le plan académique, il faut considérer que le courant dominant est aujourd'hui néo-keynésien ou néo-classique? Pendant longtemps, les néo-keynésiens et encore plus les post-keynésiens ont estimé qu'ils étaient marginalisés dans le système universitaire, Xavier Rago.
Oui, alors j'ai un petit point de nuance quand même là sur ce sujet. C'est-à-dire que je pense que la question des inégalités et la question du changement climatique sont des sujets tellement énormes que différents courants de pensée vont nous aider à le penser. Il faut être un peu éclectique pour trouver la bonne façon de résoudre ces problèmes. Concrètement, par exemple, le grand penseur des inégalités aujourd'hui, c'est Thomas Piketty. Thomas Piketty, sa trajectoire intellectuelle n'est pas keynésienne au départ. Il travaillait avec Robert Solow à MIT, il s'est intéressé aux inégalités, il a reconstruit des bases de données micro pour comprendre les inégalités, mais il s'inscrivait dans une théorie de la répartition et du conflit qui était dans Keynes, mais qui est aussi hors de Keynes, dans d'autres économistes qui ont pensé le conflit. On peut remonter même à Marx, pourquoi pas, qui est un grand inspirateur de la théorie du conflit et des inégalités. Donc il y a tout n'est pas dans Keynes quand même. Et notamment sur la question des inégalités et du changement climatique, il faudra s'inspirer de certains éléments de Keynes, mais l'enjeu est trop important pour, je dirais, revendiquer une chapelle par rapport à l'enjeu. Et, pour revenir à votre question, par rapport au monde académique, je pense qu'il est sain de prendre les choses comme ça, c'est de dire que sur la question des inégalités entre les gens, entre les milieux professionnels, entre les territoires, définissons des objets, des domaines d'études, et essayons de voir l'objet le plus adapté. Pareil sur par exemple, le changement climatique. Ça va restreindre la production, forcément, parce que ça va faire des tensions sur l'offre, et c'est nécessaire, parce qu'il faut arrêter de consommer l'énergie comme on le fait. Cette dimension d'une politique de l'offre qu'il faut accompagner, et ça va réduire la productivité, ça va réduire notre richesse, qui est un peu fallacieuse, parce qu'on n'intègre pas la destruction de l'environnement. Pour penser cet effet négatif sur l'offre, il faut penser d'autres courants, vraiment penser l'entreprise, l'énergie, aller vers les ingénieurs. Et Keynes est un outil, mais il y en a beaucoup d'autres.
Un outil parmi beaucoup d'autres. Vous partagez ce point de vue, Virginie Monvoisin, et aussi l'idée que Keynes nous a beaucoup fait avancer sur la question du temps de travail, puisqu'il prévoyait qu'on ne travaillerait plus que 15 heures par semaine en 2030. Alors bon, évidemment, on n'y est pas, mais l'idée d'une réduction du temps de travail, c'est quand même quelque chose qui progresse aujourd'hui parmi les économistes et les personnalités politiques. Et je vous laisserai finir là-dessus, Virginie Monvoisin.
Effectivement, hein, Keynes, en 1930, a écrit Perspectives économiques pour nos petits-enfants et il s'est placé dans le long terme, hein, il s'est projeté et là on retrouve tout Keynes, hein, à la fois la question de l'efficacité économique, mais aussi la question du bien-être, peut-être la question du champagne, qui est sous-entendu, puisqu'on a commencé par ça tout à l'heure. On retrouve Keynes, et on pourrait, il n'en a pas parlé, parce qu'en 1935, il ne se posait pas, les questions de développement durable, si on se place dans le long terme. Il ne faut pas sous-estimer la révolution keynésienne, puisque on est présent aujourd'hui un néo-keynésien et une post-keynésienne, mais Keynes s'est influencé bien au-delà. C'est-à-dire qu'il y a bien d'autres courants encore de pensée hein, qui doivent à Keynes. Hein. Il y a les régulationnistes, les institutionnalistes. Donc, tous ces gens-là qui sont en train de réfléchir à des questions difficiles, comme le développement durable, comme le temps de travail, quelle est la société post-moderne avec les intelligences artificielles.
Et on a besoin de tous ces courants-là, c'est ce que vous nous dites.
Voilà.
Un grand merci à Virginie Monvoisin et Xavier Rago de nous avoir aidés à y voir plus clair dans le labyrinthe des courants keynésiens. Je rappelle le titre de votre ouvrage, Virginie Monvoisin, l'économie post-keynésienne, histoire, théorie et politique, paru au Seuil. Merci à tous les deux. Tout de suite, nous avons le plaisir de retrouver Xavier Martinet et son journal de l'écho.
France Culture, entendez-vous l'écho? Tiffaine de Roquigny.
Bonjour Xavier.
Bonjour Tiffaine et bonjour à tous.
Des négociations difficiles pour le budget européen malgré un accord mardi entre les États et le Parlement. Son rapporteur, l'eurodéputé Pierre Larouturoux, est en grève de la faim depuis 2 semaines. Il demande notamment une vraie taxe sur les transactions financières, la patate chaude des finances européennes.
Oui, 7 kilos de moins pour peser sur plus de 1000 milliards d'euros. C'est pour l'instant le pari de l'eurodéputé de centre-gauche Pierre Larouturoux en grève de la faim depuis le 28 octobre. Le rapporteur du budget au Parlement est l'un des quelques élus à ne pas se satisfaire de l'accord sur ce budget 2021-2027. Et au Parlement, rapporte Le Monde, son initiative fait sourire, voire irrite. Ses collègues se lâchent. L'un parle de régime, l'autre de rapport légèrement trumpiste à la vérité. Reflet en fait de la longue épreuve de force entre le Parlement et les États qui, au-delà d'une rallonge de quelques milliards, portaient aussi sur une nouveauté, une taxe sur les transactions financières. Et pour le député, le compromis passe d'autant moins que si l'option retenue est censée rapporter 3,5 milliards d'euros par an, l'assiette et le taux d'une telle taxe sont si infimes qu'ils épargnent approximativement 99% des transactions, affirme Pierre Larouturoux en reprenant les critiques de l'Autriche. Ajoute-les à cela qu'elle ne prendrait effet au plus tôt qu'en 2026 pour un budget jusqu'en 2027, donc le compromis ressemble à une évacuation en règle.
Il faut dire, Xavier, que cette taxe sur les transactions financières, c'est aussi un vieux serpent de mer théorique.
Oui, un serpent qui s'enroule autour du prix Nobel James Tobin en 1972, bien sûr, mais qui remonte aussi jusqu'à Keynes, justement, à ce fameux chapitre 12 hein, dont vous parliez, de sa théorie générale de 1936, taxe à l'origine limitée aux transactions monétaires pour réguler la spéculation, atténuer aussi la volatilité des marchés, jeter du sable dans les rouages, disait Tobin. Peu d'écho à l'époque, la finance en plein boom ne voulait pas de marchands de sable. Pourtant, si elle est tombée pendant 20 ans comme une pierre dans un puits profond, constate Tobin, décidément en verve insoupçonnée, l'idée réapparaît à chaque crise financière ou budgétaire, les années 90, 2008, 2011, et désormais l'objectif est d'utiliser les recettes pour des besoins plus spécifiques, abonder le FMI ou la Banque mondiale à l'époque, puis après l'aide au développement quand les ONG ont repris cette idée, mais aussi aujourd'hui la réduction des déficits, la transition climatique, bref, une vraie taxe sapin de Noël.
Des promesses politiques, mais aussi des doutes sur l'efficacité attendue d'une telle taxe.
Oui, alors là, le G20, l'ONU s'en sont emparés et ont commandé des rapports plutôt prometteurs. Nicolas Sarkozy s'en était fait le héros. François Hollande avait fait voter une loi en 2012, mais son efficacité est contestée. Pour tous les pays, c'est d'abord le traditionnel dilemme de l'impôt. Quel est le taux le plus efficace avant d'être contre-productif? Et puis, c'est aussi un choix incertain entre sécurité budgétaire et compétitivité financière dans un marché européen féroce. En pratique, en France, même si elle a rapporté près de 950 millions d'euros en 2016, selon la Cour des comptes, la taxe française ne remplit pas ses objectifs de stabilisation budgétaire, régulation financière, ni d'entraînement des autres pays européens.
Pourtant, elle pourrait être une solution pour le budget de l'Union.
Oui, pour l'autonomiser, c'est-à-dire le libérer du jeu politique des États. Environ 40% de ce budget provient des taxes à l'importation et des prélèvements sur la TVA. Et l'Union européenne est à la recherche de nouvelles ressources qui lui soient propres, marché carbone ou nouvelles taxes, donc sur le plastique dès janvier. Et puis cette TTF, taxe sur les transactions financières. Or, la proposition franco-allemande actuelle est loin des 0,1% de prélèvements et des 57 milliards d'euros de recettes, c'est-à-dire à peu près 10% du budget que réclamaient les députés qui soutenaient celle de la Commission et que Pierre Larouturoux a reprise dans son projet de pacte finance-climat. Selon lui, la TTF devrait être même l'outil principal pour débloquer la transition énergétique alors que le Green Deal européen a du plomb dans l'aile. Mais cette taxe, on le voit, est l'objet de tellement de désaccords que plus elle est faible, plus elle a de chances de passer. Larouturoux soupçonne Bercy de freiner en sous-main. Scandaleux, répond le ministère. Pour l'instant, en tout cas, la TTF ne séduit pas ou seulement quand elle est inopérante.
Merci beaucoup Xavier Martinet. Votre journal de l'écho est à réécouter sur franceculture.fr. C'était Entendez-vous l'écho, une émission préparée par Marguerite Caton, Bruno Barada, Aliette Aubin, Léa Sabourin et Antoine Jourdan. À la réalisation, Anne de Pelchin. À la technique aujourd'hui, Jean Frédérics. Demain, on embarque sur un chalutier aux côtés des pêcheurs européens pour parler de ce secteur en crise. En attendant, vous pouvez écouter l'ensemble de nos émissions sur notre site franceculture.fr et sur l'application Radio France et nous retrouver sur Twitter sur le compte d'Entendez-vous l'écho.